Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC, il est 8h. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un hommage national à Montauban. Et l'émotion aussi ce matin à Suip. RMC est sur place dans ces villes, ville des deux militaires français tués dans une embuscade le week-end dernier au Liban. Qui veut devenir patron? Le gouvernement veut faciliter, vous verrez, les transmissions d'entreprises. Le ministre du Commerce est d'ailleurs l'invité d'RMC ce matin, ce sera à 8h30. Et va-t-il vraiment chanter? Une pétition et des artistes demandent l'annulation de la tournée de Patrick Bruel, visée par des enquêtes pour viol et agression sexuelle.
Les villes de Suip et de Montauban rendent hommage à leurs soldats.
Une cérémonie d'hommage national aura donc lieu en fin de matinée à Montauban, dans la caserne précisément du sergent-chef Florian Montorio. Ce casque bleu de 40 ans, tué le week-end dernier donc dans une embuscade au Liban. Embuscade qui a également coûté la vie au caporal-chef Anissé Girardin, maître chien de 31 ans à Suip, c'est près de Reims. Blessé le week-end dernier, il avait été rapatrié en France avant-hier, mais il a succombé à ses blessures. Cassandre Bro, vous êtes en direct ce matin de Suip pour RMC, où les habitants lui rendent hommage.
Oui, c'est un village endeuillé qui se réveille ce matin. Les quelques habitants que je croise ici racontent que tous connaissent quelqu'un qui est au 132e, comme ils l'appellent ici. C'est le régiment auquel était rattaché le caporal-chef Anissé Girardin. Ce jeune père de famille de 31 ans qui est mort hier après avoir été blessé le 18 avril dernier au Liban, alors qu'il était en mission de reconnaissance pour ravitailler les casques bleus de l'ONU. L'émotion est d'autant plus vive que ce militaire laisse derrière lui une famille, un enfant de 2 ans. Tous les habitants de Suip ont une pensée pour ses proches et pour ses frères d'armes. On travaille avec eux. Les militaires font vivre la commune, me confie une habitante, les yeux brillants. Dans les petites rues, ici, on croise régulièrement de gros engins militaires, des treillis. Les quelques militaires aperçus ce matin pressent le pas, le visage fermé. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sont très touchées. Toutes souhaitent participer si un hommage est organisé ici à Suip.
Cassandre Bro en direct donc ce matin de la Marne pour RMC. Pendant ce temps, le Liban et Israël doivent reprendre ce jeudi leur pourparlers. Ça se passe aux États-Unis où Donald Trump dit qu'il est possible que les discussions reprennent dans les prochains jours avec l'Iran. Bon, sans plus de précision. Et comme à chaque fois qu'il parle, les marchés réagissent. Cette nuit, les cours du pétrole étaient à la hausse avec les conséquences qu'on connaît en France sur les prix des carburants. Le gouvernement fait d'ailleurs savoir que les dernières aides vont coûter 180 millions d'euros pour le mois de mai après avoir coûté 150 millions d'euros en avril. Le gouvernement qui se soucie aussi de l'avenir des entreprises. 1,5 million de patrons vont passer la main là dans les 10 prochaines années. C'est donc un dossier majeur et le ministre des PME et du Commerce, Serge Papin, sera l'invité de RMC ce matin à 8h30 pour annoncer des mesures. Romain Cluzel, au service politique à RMC, vous nous dites que l'idée du gouvernement, c'est de faciliter les transmissions d'entreprises.
Et le ministre chargé du dossier, Serge Papin, évoque un mur de transmission dans les années à venir. 3 millions d'emplois vont être concernés par des cessions d'entreprises dans les 10 prochaines années. Pour éviter des milliers de fermetures d'entreprises ou des rachats par des fonds étrangers, l'exécutif mise sur la prévention. Tous les chefs d'entreprise de plus de 55 ans vont recevoir un courrier pour les appeler à anticiper leur succession. Ils auront aussi accès à un guide des bonnes pratiques. Et puis, le ministre des PME ambitionne de créer un Tinder de la reprise, en utilisant une plateforme de la Banque publique d'investissement censée mettre en relation des investisseurs avec des patrons qui cherchent des repreneurs. Cette plateforme, elle existe déjà, mais sans grand succès pour l'instant. Le ministre le reconnaît, il faut la moderniser.
Les dirigeants européens se réunissent à Chypre aujourd'hui pour un nouveau sommet européen en présence de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky qui va remercier les Européens d'avoir débloqué un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, prêt qui était bloqué jusque-là par la Hongrie. Avant ça, dans la journée, la France et le Royaume-Uni vont officiellement dévoiler le nouvel accord migratoire qui a été conclu hier soir pour tenter d'empêcher les traversées clandestines de la Manche et donc tenter d'éviter les drames migratoires. Romain, vous allez tout nous expliquer pour RMC. Alors, c'est pas le premier accord. Il y en a déjà eu un en 2018 dans la foulée de la crise migratoire. Il y en a eu un autre en 2023. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans celui-là?
Bien d'abord, on peut rappeler le principe de cet accord, de l'argent britannique contre des mesures prises côté français. Ça ne change pas. En revanche, des moyens supplémentaires sont mis en place. D'abord, le nombre de forces de l'ordre va être augmenté de moitié d'ici 2029. 1400 agents seront affectés à à la surveillance du littoral français, dont une unité de CRS spécialement dédiée. Des moyens techniques également, comme des drones et des hélicoptères. L'objectif, c'est de mieux prévenir les tentatives de traversée, de réduire le nombre de départs et de démanteler les réseaux de passeurs. Pour financer ces mesures, le Royaume-Uni s'engage à verser 580 millions d'euros à la France sur les 3 prochaines années, plus. Et ça aussi, c'est une nouveauté, un genre de bonus financier jusqu'à 186 millions d'euros conditionnés à l'efficacité des mesures prises par les autorités françaises. Ces 4 derniers mois, 29 personnes exilées ont trouvé la mort en tentant de traverser la Manche.
Vous l'avez entendu un petit peu plus tôt ce matin sur RMC, l'association Oser le Féminisme, appuyée par une pétition et des artistes, demande l'annulation de la tournée de Patrick Bruel, qui doit se produire dans une cinquantaine de villes à partir de la mi-juin, mais qui est qualifiée, je cite, de tournée de la honte, car le chanteur est, vous le savez, visé par 3 enquêtes pour viol et agression sexuelle. Et cette situation met dans l'embarras les organisateurs de tous ces concerts, nous dit pour RMC Victor Girard.
Avant le concert de Patrick Bruel, prévu le 24 juillet au Festival Grande Marée en Normandie, Pierre Béton reconnaît un certain malaise.
On n'est pas bien, on est fatigué déjà.
Lâche l'organisateur qui regrette les amalgames entre les accusations visant le chanteur et son festival où se produiront une vingtaine d'artistes. S'il comprend les inquiétudes des associations féministes...
Parce que c'est un sujet grave qu'il faut traiter avec sérieux.
S'en prendre au festival n'est pas la bonne solution selon lui.
On rapproche les gens, on déploie des énergies positives. Là, on a une pétition contre un artiste qui vient chez nous. On n'est plus dans l'objet premier du festival. On n'est pas juge.
L'organisateur rappelle que Patrick Bruel bénéficie de la présomption d'innocence. Sa venue est donc maintenue. Même position du côté de Robert Albergucci, le directeur du festival Le Son by Toulon, où le chanteur est aussi attendu en juillet. Impossible de toute façon de faire marche arrière selon lui.
Il y a un contrat qui a été signé au mois de septembre. Il y a beaucoup d'argent en jeu puisque l'artiste a été payé. Il n'y a pas de clause qui dit qu'on peut annuler une date pour ça.
Le patron espère que l'affaire sera rapidement tranchée par la justice.
Soit qu'il y a un jugement, soit qu'il y a un non-lieu. Quelque chose qui puisse aller dans un sens ou dans l'autre pour que les festivals puissent repartir sereinement.
Patrick Bruel a assuré par la voix de son avocat n'avoir jamais contraint quiconque à un acte sexuel.
Et puis c'est une semaine de punition, vous savez, à Marseille, pour les joueurs de l'OM qui ont eu double dose d'entraînement hier et avant-hier et qui vont carrément se mettre au vert pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui et jusqu'au prochain match de championnat. Ce sera dimanche contre Nice, hein, Florent Germain. Pour RMC, c'est en réaction, on le sait, à la mauvaise passe que traverse l'OM. Les joueurs sont pointés du doigt pour leur attitude sur le terrain. Il y en a un qui répond ce matin à votre micro RMC, Florent Germain, c'est l'Argentin Medina.
Oui, Facundo Medina a décidé de secouer le vestiaire de l'OM. Le défenseur argentin est connu pour son franc-parler, son caractère, et il n'a pas aimé du tout l'attitude de l'équipe à Lorient samedi, notamment celle de certains leaders, le champion du monde 2018 Benjamin Pavard ou le capitaine Pierre-Émile Heubier, entre autres.
Évidemment qu'on est triste et énervé par rapport à l'attitude de certains. On parle de joueurs expérimentés, joueurs de sélection, parfois champions du monde. Des fois, j'ai envie de dire, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Vous me la faites à l'envers ou on peut partir à la guerre ensemble?
Facundo Medina dit même que les joueurs marseillais ont bien mérité la sanction de la direction, une mise au vert de 3 nuits à la commanderie à partir d'aujourd'hui. Objectif podium toujours possible, assure pourtant Medina.
Il reste 4 matchs, on est à 2 points des 3e, 12 points à prendre, tout est possible, ça dépend de nous, si tout le monde comprend qu'il faut mettre de l'engagement. Je l'ai dit dans le vestiaire, si on n'atteint pas l'objectif, au moins qu'on le fasse avec des joueurs qui ont laissé leur vie sur le terrain.
Des mots rares et forts pour un électrochoc, réponse dimanche soir avec un OM Nice bouillant au Vélodrome.
Et Nice qui s'est qualifié en finale de Coupe de France hier soir en allant gagner à Strasbourg 2-0, doublé de Wai. Ce sera dans un mois cette finale contre Lens au Stade de France.
Il est 8h09 sur AMC, c'était le journal de Quentin Vinet, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Économie et impôts, Emmanuel Le Chip, parce que nous, Français, nous avons payé en 2025 plus de 50 milliards d'euros d'impôts supplémentaires.
Effectivement, 51 milliards d'impôts exactement en plus en 2025 par rapport à 2024. C'est ce que nous a dit hier soir le Haut Conseil des Finances Publiques. Augmentation des prélèvements qui nous a quand même permis d'éviter le bonnet d'âne européen en matière de déficit l'an dernier. Et ça, c'est ce que nous dit Eurostat. 5,1% de déficit public. Alors, il n'y a que la Belgique qui fait pire.
Oui.
5,2%.
On n'est pas tout à fait dernier, mais presque.
Allez, absolument. Et alors, ce surcroît d'impôts, il a été quand même, il faut le reconnaître, largement supporté par les entreprises, plus que par les ménages. Mais tout ça pour essayer de faire face à des dépenses qui, elles, continuent de croître inexorablement pour des dépasser quand même 57% du PIB. C'est moins de 50% pour la moyenne européenne. Pour vous donner un ordre d'idée, on dépense 240 milliards d'euros de plus par an pour notamment financer notre protection sociale. Et c'est l'autre mauvaise nouvelle aussi, c'est que vu tout ce qu'on dépense pour financer notre protection sociale, il n'est pas étonnant que le Français soit celui à qui il reste le moins à la fin du mois, une fois payé toutes les cotisations sociales, avec le Belge et l'Allemand, il faut le reconnaître. Quand un salarié coûte 100 à son employeur, il ne lui reste que un peu plus de 52 euros contre 65 en moyenne dans les grands pays de l'OCDE. C'est quand même 13 euros à chaque fois. Ça n'a jamais été aussi peu depuis 10 ans.
Et le problème, c'est que ça ne va pas s'arranger, parce que là, avec la guerre, on le voit bien, les finances publiques sont dans le rouge.
Et ben exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement veut aller chercher 6 milliards d'euros d'économies cette année, mais ça ne suffira pas, parce que les aides vont durer encore quelques mois. Vous voyez qu'on est parti sur un tarif de 200 millions d'euros mensuels pour encore sans doute quelques mois, parce que toutes les aides sociales, les minima sociaux et notamment les retraites vont être revalorisées avec l'inflation, parce que la partie de la dette publique indexée sur l'inflation va coûter plusieurs milliards, sachant que la France est déjà le seul grand pays européen dans lequel la dette a continué de croître ces dernières années. Vous connaissez la citation de Talleyrand, Apolline,
non,
quand je me regarde, je me désole.
Ah oui,
quand je me compare,
je me console.
Je me console. Et quand on regarde les finances publiques de la France, on se désole. Et quand on se compare, on se désole encore plus.
On ne se console pas
du tout.
C'est
ça le problème.
Merci Emmanuel. Les prix du jour, comme chaque jour, et cette fois-ci, ça remonte.
Oui, j'ai peur qu'on soit en train d'avancer.
On est en train de remonter
renversement de tendance, c'est vrai sur le gazole, on est reparti à la hausse.
Ça remonte.
2,17 € contre 2,16 € en début de semaine. Le sans-plomb 95, on avait approché la barre des 1,95, on est remonté à 1,97. Le pétrole a rebondi, on est à plus de $103 le baril contre 90 il y a une semaine. Et même le gaz, qui était sur une trajectoire baissière, est reparti lui aussi un peu à la hausse. 44 € le mégawatt-heure.
C'est comme si on avait touché le fond de la piscine et que ça remontait.
Exactement. Ouais. On voit bien que les tensions récentes finalement jouent comme une force de rappel sur les prix de tous nos carburants.
Merci Emmanuel, 8h12. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Notez pour la suite dans un instant, Arnaud Demange va venir nous rejoindre à 8h30 dans le face-à-face. Mon invité, c'est le ministre des PME, du commerce, du pouvoir d'achat, Serge Papin. Évidemment, je l'interrogerai sur ce que nous disait à l'instant Emmanuel Le Chypre. Ça repart à la hausse, les prix à la pompe, le prix du baril. Que faire? Est-ce que vraiment il va réussir à aider ceux qui sont les gros rouleurs? Et puis, est-ce que d'ailleurs les distributeurs profitent de la crise? Quels sont les résultats de l'enquête sur les marges? Il nous le dira évidemment à 8h30, puis on parlera aussi de la transmission des entreprises. Juste après, il y aura aussi le meilleur de Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup, c'est tous les jours sur RMC à 8h50. Il est 8h13, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Oh, bonjour les amis.
Il est avec nous, Arnaud Demange. Salut Arnaud.
Ah, Apolline, ce matin, j'avais envie qu'on se change un peu les idées. Je voulais vous parler à tous d'amour.
Ouais.
Parce qu'on a déjà eu la paparazzade entre Jordan Bardella et sa princesse Maria Carolina de Whisky des Deux Corses, de Bourbon des Deux Siciles. Tiens, est-ce que vous savez à quoi ça fait référence, les Deux Siciles? C'est intéressant.
Oui, c'est vrai que je pensais qu'il n'y en avait qu'une.
À Sicile du Flot et à Sicile de Minibus. Peu de gens le savent, mais voilà, avec
Siciles.
Arnaud Demange, on apprend en s'amusant. Alors, petit préambule à cette chronique. Je suis fatigué. Ça s'est senti peut-être dans cette vanne. Donc, c'était caliente, cette paparazza de Bardella à la princesse. C'était chaud comme un magasin Picard en février. Ça m'a rappelé ma dernière réunion de copropriétaires quand on a décidé de mettre de l'isolant sous la toiture. Ah, chaleur. Eh bien, l'amour envahit le cœur de tous nos politiques.
Oui.
Car Gabriel Attal, à son tour, évoque dans son livre « L'amour de sa vie », l'ancien ministre macroniste Stéphane Séjourné.
Oui.
Ça doit être très sympa leur dîner à tous les deux le soir. Stéphane, t'as fait quoi aujourd'hui au bureau?
Moi, j'ai dit du mal de Macron. Et toi?
Oh, moi aussi j'ai dit du mal de Macron. Oh. Ça va les enfants? Vous avez été sages? Oui papa. Pardon, monsieur le président. C'est lui qui les a fait. C'est lui qui les a fait.
Exceptionnel. On part en Iran, Arnaud.
Non, on va pas. Non.
Non.
Ben, moi, ça va être.
Enfin, non, moi, non, en fait. Hein.
Vous faites ce que vous voulez, mais non. Finalement, non. On va parler de la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump estime qu'il sera long et difficile d'exhumer l'uranium iranien. Parce qu'il y a aussi l'uranium à gérer là-bas. Oh là là.
Quelle affaire.
Quelle affaire. Ouais, ouais. Il y a ça aussi. Hein.
Mmh, ouais.
Ça, c'est l'uranium, Apolline.
Voilà, voilà.
Des fois, il est enrichi. Des fois, il n'est pas enrichi.
Ouais.
Alors, on le redit, l'uranium, c'est à consommer avec modération. Alors, l'uranium, Trump a proposé de l'enterrer à 10 km sous terre avec les fichiers Epstein.
Voilà.
Mais vous savez, non, mais c'est vraiment sérieux, l'uranium. J'en parlais avec le général Pellistrandi hier. Vous savez, le monsieur militaire qui est sur BFM TV depuis 54 jours non-stop, le pauvre. Je suis allé le voir en loge. Je lui dis, bonjour général. Chut, ferme la porte. Je suis en train de creuser un tunnel avec mon stylo bic. Je dois tout recommencer parce qu'hier, je suis arrivé dans le studio de BFM Business. J'ai vu les présentateurs tout nus en train de faire l'amour sur un lit de page Saubon du Figaro. Il a dû tomber sur la préparation de l'émission d'Edwige Chevrillon et Emmanuel Mouchy.
Mais Arnaud, vous êtes vraiment fatigué, hein. C'est pas possible.
Ça faisait et à cause des vibrations, mon tunnel s'est effondré. Je dois tout recommencer.
Alors Arnaud, vous vouliez nous parler de Pierre-Edouard Stérin, le milliardaire d'extrême droite qui est devenu donc actionnaire de l'entreprise qui organise des grands banquets, les banquets du canon français.
Oui.
Certains se plaignent de ces événements qui seraient le théâtre de remarques racistes, sexistes, voire néo-nazis.
Oui,
c'est ça ce que vous vouliez que je vous dise.
Exactement. Ben, c'est un sujet. Pierre-Edouard Stérin, pour vous situer un peu le bonhomme, il déclarait en interview il y a quelques jours « Je suis plus à droite que l'extrême droite ». Ça pose le mec.
Ça pose un gars.
Alors, vous savez qui c'est? À la base, c'est le fondateur des Smartbox. Il a fait fortune avec les Smartbox parce qu'on les offre à Noël, mais personne ne les utilise jamais. Alors, si vous voulez faire barrage à l'extrême droite, utilisez vos Smartbox. Je sais, vous serez obligé d'aller faire 3 jours de stage de montgolfière à Vierzon. Mais faut ce qu'il faut. Utilisez-la, Pauline, la Smartbox pour un week-end topinambour et pas de réseau en Moselle. Pensez à De Gaulle. Lui, il aurait dit, ma chère Yvonne, nous devons faire 2 jours d'acrobranche à Limoges pour la France. Et c'est l'occasion d'un quiz, Apolline. Smartbox existe-t-elle?
Ah oui, on en est là quand même.
Eh oui.
D'accord.
Top, c'est parti. A gagné une Smartbox dédicacée par Pierre-Edouard Stérin, découverte du Troisième Reich dans les Landeurs allemands.
Oh, attention.
Main sur les buzzers. Cette Smartbox, top. Une Smartbox escapade insolite. Est-ce qu'il n'y a pas d'insolite pour deux dans un tonneau en Haute-Normandie?
Oh non,
Oui, bien sûr. Une Smartbox nuit dans un hôtel Kyriade en banlieue d'Annecy en semaine.
Non.
Oui.
Mais non.
Oui. Alors, pas en ces termes, c'est une cliente qui se plaint du résultat dans un article du Figaro. Quand je vous dis utilisez-les. Alors, sur le site de Smartbox, donc de Pierre-Edouard Stérin, le catholique, il y a un onglet cadeau pour sa maîtresse. Oh!
Oui, je pense que ça existe.
Alors oui, mais il y a une petite subtilité, c'est uniquement si t'as envie d'offrir une Smartbox à la prof de tes enfants. C'est une maîtresse,
c'est maîtresse,
quoi. C'est la maîtresse. Là, il est catho, c'est une maîtresse d'école. Alors donc la box pour les profs, je sais pas ce qu'il y a dedans, probablement un abonnement à Télérama, une visite de France Inter. C'est super. Sur le site, il y a aussi un onglet cadeau à votre curé et c'est un escape game avec des scouts.
Non,
c'est pas vrai. Il y a une Smartbox activité entre amis, 1 heure de lancer de hache près de Fontainebleau.
Oui, c'est possible ça.
Y a Smartbox, activité entre amis, 1 heure à fumer du hache près de la Courneuve. Non. Il y a une Smartbox, cuisinons 2 jours avec Mathieu Béliard. Les enfants, venez goûter. Papa, il a fait des émulsions de légumes oubliés et de mousse de boudin blanc.
Oh non!
Alors, il n'y a pas, mais est-ce que vous pourriez nous l'offrir, Mathieu?
Ouais, ce serait bien, et on vient tous.
Venez comme vous êtes.
À demain.
Merci Arnaud, qu'on retrouve évidemment tous les jours, à tout moment en podcast et en tournée. Il sera à Genève, à Dijon, à Hyères, à Reims, à Chambéry, à Orange, à Toulouse et même à Paris, en solo. Au solo.
Le 14 mai
prochain.
C'est dans une
Smartbox. Il est 8h21 dans un instant de face à face. Et justement, Nicolas a une question à poser à mon invité. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour Pauline. Je suis avec vous.
Vous êtes avec nous et vous êtes commerçant à Montargis. Vous aviez une question pour ministre des PME.
Oui, parce qu'on parle en fait de succession. Hein.
Ouais.
Encore faut-il avoir quelque chose à succéder.
Ouais.
Parce que nos commerces meurent de plus en plus dans nos centres-villes, hein, on le voit. Hein, et du coup, la vraie question, c'est avant de passer ou de penser aux successions, comment on va faire pour valoriser nos entreprises.
Vous avez l'impression d'être complètement sous l'eau aussi à cause des décisions de l'État.
Oui, complètement, hein, puisque en fait, aujourd'hui, on voit que le consommateur a un réflexe de peur, et du coup, il déserte nos commerces, puisqu'il fait des arbitrages, hein, tout simplement, en ce moment, et depuis le Covid, on le voit, hein, dans tous les magasins, les gens freinent pour tous les achats et font des arbitrages.
Voilà. Donc vous aimeriez bien avoir quelque chose à transmettre précisément. Merci en tout cas d'avoir appelé Nicolas. Nicolas qui est donc commerçant à Montargis. Il est 8h23 sur RMC. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC. Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clément Gouitz.
Un hommage national ce matin aux militaires de Montauban, tués au Liban le week-end dernier dans une embuscade menée par le Hezbollah. Embuscade qui a coûté la vie hier à un deuxième soldat français. Il s'agit du caporal-chef Anissé Girardin, 31 ans. Il faisait partie du 132e régiment d'infanterie de Suippes dans la Marne. On connaît l'affiche de la finale de la Coupe de France. L'OGC Nice défiera Lens après sa victoire hier soir 2-0 face à Strasbourg. Et le PSG reprend 4 points d'avance sur Lens en Ligue 1 après sa victoire hier 3-0 face à Nantes. La météo, grand soleil quasiment partout. Il restera des nuages et des averses ce matin entre les Charentes, le Massif central et le Languedoc-Roussillon. Côté température, il fait de 1 à 11 degrés. 1 à Lille, 11 degrés à Saint-Étienne.
C'était le rappel des titres de Clément Gouitz. Dans un instant, le ministre des PME et du pouvoir d'achat, Serge Papin, est mon invité. On va parler prix, évidemment.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Serge Papin.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Et avec tout ça, on a quand même l'impression de faire quasiment le tour de toutes les préoccupations du moment des Français, de leur quotidien. Les prix, évidemment, à la pompe, la question des renégociations éventuelles des prix avec la grande distribution, la question des entreprises, même de la transmission d'entreprise. Vous voulez aider davantage à transmettre les entreprises et puis finalement la question aussi de l'emploi et du pouvoir d'achat. On le regarde ce matin, les chiffres montrent que c'est comme si on avait, ça y est, réatteint un plancher et que ça remonte. Alors ça remonte légèrement, mais quand on regarde le gazole, il repart à 2,17€ contre 2,16€ en début de semaine. Le sans-plomb 95 repasse à 1,97€ ce matin, il était à 1,96€ hier. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est fini, ça remonte?
Il y a une baisse depuis le 8 avril, hein, en moyenne de 16, de 17. Moi, je dois m'assurer qu'il y ait une transparence, hein, dans la volatilité, parce que le marqueur de cette crise, c'est la volatilité. Hein, ça, voilà. Et ce qu'il faut, c'est qu'on s'assure, et on a les moyens, le gouvernement, les moyens de contrôler les prix, les marges, de manière à ce que ça soit répercuté à la baisse.
Vous avez lancé une recherche pour justement vous assurer que ces marges ne sont pas excessives.
Voilà, et donc on a des réunions, j'en ai une en fin de journée aujourd'hui avec les distributeurs. On doit avoir cette transparence, que on soit sûr, et je suis dans mon rôle, hein, qu'il y ait, aussitôt qu'il y ait une baisse, que ça soit répercuté. Donc là, la courbe des marges qui a été contrôlée par les services de la DGCCRF montre qu'au début de la crise, il y a eu petite envolée des prix, des marges donc, et qu'après les choses se sont lissées, hein, et qu'il y a eu une répercussion, que les distributeurs ont joué le jeu. Donc il faut qu'on continue à s'en assurer, et c'est ce qu'on fait quotidiennement. J'ai pas un doute, hein, mais je contrôle. Voilà, je contrôle pour être certain.
Vous voulez dire que la confiance n'exclut pas le contrôle.
Exactement. Et puis, on a des outils qui seraient disponibles au cas où on s'apercevrait que les choses sont pas répercutées assez vite.
Ces outils, c'est ce fameux décret que vous avez dit avoir écrit. Il n'y aurait plus qu'à le publier le cas échéant. Mais les distributeurs ont quand même l'impression d'avoir bon dos et de jouer vis-à-vis de vous une sorte de rôle de bouc émissaire confortable.
Non, il faut que tout le monde joue le jeu. Chacun dans son registre. les distributeurs, moi j'ai été vendeur
vous
de carburant.
Vous avez été vous-même à la tête des magasins U.
Et c'est vrai que quand on a... Oui, j'ai eu un magasin aussi. Hein. Et donc, le carburant, c'est un prix d'appel. C'est parce que les gens viennent faire leurs courses en voiture. Donc, c'est l'intérêt des distributeurs que le prix du carburant soit le moins cher. Donc voilà, simplement,
il faut pas qu'il y ait... Pardon, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que vous nous dites d'un côté, moi je sais, parce que j'ai été moi-même à la tête de mon magasin, qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de marge là-dessus, et dans le même temps, régulièrement, vous dites, on va mener des contrôles, parce que...
Oui, parce que l'État est dans son rôle pour pas qu'il y ait d'effet d'aubaine par rapport à ça.
Alors, les distributeurs aujourd'hui...
Voilà, on constate que, voilà, ils jouent plutôt le jeu.
Les distributeurs, ils estiment quand même que régulièrement vous ressortez cette carte-là. Je voudrais juste que vous écoutiez les mots de Michel-Édouard Leclerc à propos de vous. Il était mon invité à ce même micro le 10 avril dernier. Il considère que c'est un peu gonflé de votre part. Écoutez.
Et d'avoir en plus un ministre du Commerce qui vient de chez nous et qui sait qu'on prend pas de marge, on n'a pas aimé, d'accord.
Là, vous parlez de Serge Papin, qui a été l'ancien patron
dans la distribution. Là, d'avoir un de chez nous
aujourd'hui,
qui est ministre du Commerce et qui vient se balader en bagnole avec des caméras pour dire je viens contrôler dans les stations des grandes surfaces, c'est sûr que c'est pas notre truc.
Ça vous a pas plu, ça?
Non, mais Michel-Édouard, écoutez, il me cherche.
Oui, un peu, là, franchement.
Depuis, mais c'est pas d'aujourd'hui, là. Il le faisait quand j'étais à la tête de mon groupement. Parce que, voilà, il faisait bien marquer les différences. Hein. Mmh. Il m'a reproché quand j'ai fait le rapport Egalim. Mmh. Et là, il oublie juste une chose. Moi, je me préoccupe de l'intérêt général du pays. Je suis ministre de la République. Et donc, ce qui m'anime, c'est l'intérêt général, c'est l'équilibre. Moi, je suis pas dans la défense corporatiste de mon entreprise. J'ai changé de registre, donc voilà, faut juste qu'il ait cette perception. Hein.
Vous trouvez du coup que c'est lui qui exagère?
Bah, bien sûr, c'est lui qui exagère. Lui, il est dans la défense de ses intérêts. Moi, je suis dans la défense des intérêts des Français. Et je suis dans mon rôle quand je contrôle s'il y a bien la répercussion des prix.
Voilà. Est-ce que vous avez les résultats de ces contrôles?
Oui, on les a, les résultats de ces contrôles. Alors, on va en parler ce soir, ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, on s'est aperçu qu'il y avait, au début du conflit, donc il y a eu une montée excessive, un peu. Hein, voilà,
il y a eu début, un excès
au début,
dans les marges des distributeurs.
Au tout début. Et après, les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, on s'assure juste que ça va continuer comme ça.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Serge Papin, vous avez désormais les résultats qui prouvent que les distributeurs ne profitent pas de la crise?
Actuellement, par rapport au contrôle que l'on fait, on peut dire ça, oui.
On peut dire ça aujourd'hui. Oui. Mais vous gardez en quelque sorte le pistolet sur la tempe en leur disant, si vous exagérez, on ressort ce décret.
On a des outils, dont ce décret et dont surtout la DGCCRF qui fait son travail quotidiennement. Puis on fait des réunions. Écoutez, on va avoir avec les distributeurs deux réunions cette semaine.
Mais ça va changer quoi?
Bah, ça permet à chacun de s'expliquer, de vérifier si les engagements sont tenus. Voilà, on est dans le dialogue aussi. Chacun, dans son registre, doit jouer le jeu.
Est-ce que ce matin, vous pouvez dire, effectivement, on l'a vu, hein, ça a repris un centime par rapport à hier. Est-ce que vous
c'est
vous dites...
volatile.
Désormais, et on voit d'ailleurs le prix du baril est repassé au-dessus des 100 $, que dans les jours qui viennent, il faut s'attendre probablement à ce que ça remonte à nouveau.
La crise va durer, ça c'est probable, hein. On ne sait pas si c'est quelques semaines ou quelques mois, donc il faut toujours avoir le discernement par rapport à ça. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est que les négociations continuent. Je vais vous dire même ce que ceux qui sont dans les négociations disent, enfin tout ce que j'entends, y compris des membres du gouvernement qui rapportent ça. Plus l'accord va prendre le temps d'aboutir, plus cet accord sera sérieux. Et donc là, on voit que les discussions durent.
Donc il faut être patient.
Il faut être patient, voilà.
Il faut être patient, mais vous dites aussi aux Français de l'être, forcément.
Écoutez, on ne fait pas rien. Mmh. Hein, on a une stratégie d'accompagnement des métiers qui le nécessitent. Et l'espace-temps, c'est chaque mois. Là, ce qu'a exprimé le Premier ministre pour le mois de mai, c'est la continuité des soutiens aux activités agriculteurs, transporteurs, pêcheurs. S'y rajoutent deux autres secteurs. Donc, c'est le BTP, donc avec les entreprises de moins de 20 salariés dans le BTP qui vont bénéficier d'un soutien, et les grands rouleurs. Donc dans les grands rouleurs, vous avez les aides-soignantes, les aides à domicile, les infirmières en zone rurale. Donc on a élargi le soutien. Et ça, c'est pour le mois de mai. Vous voyez, le temps pour la gestion de cette crise, c'est le mois. Donc là, on a ce qu'on pourrait appeler un paquet d'aides.
Ce sera prêt quand ?
C'est prêt. C'est prêt, ça sera applicable dès le 1er mai.
Ça sera applicable dès le 1er mai. Serge Papin, vous êtes aussi le ministre, je le disais, des PME, du tourisme. Le tourisme, on va y revenir parce que ça a de grosses conséquences aussi. Le prix du kérosène, je voudrais y m'y arrêter un instant. Plusieurs compagnies, notamment alors la compagnie Lufthansa, dit carrément qu'elle va réduire 20 000 vols parce qu'elle veut finalement économiser son kérosène. C'est aussi des hausses de prix du billet. Air France qui annonce une hausse des prix du billet pour les longs courriers, mais aussi pour les petits et moyens courriers, de l'ordre de 20 à 50 euros jusqu'à 100 euros pour les longs courriers. Est-ce que ça vous inquiète ?
Bah, écoutez, en termes d'approvisionnement de kérosène, on n'a pas de difficulté. On a la raffinerie de Gravenchon là, qui fournit le kérosène et qui a augmenté sa production. Donc en termes d'appro, il n'y a pas de difficulté. Au niveau des prix, oui, il y a eu une augmentation, je l'ai vu comme vous. Alors, est-ce que je suis inquiet ? Je suis ministre du tourisme aussi. Hein. Ce que j'entends aussi, c'est que beaucoup de choix de nos concitoyens, ça va être d'être un petit peu plus, de rester dans notre pays cet été, de moins utiliser l'avion, qui en effet, pendant cette période, souhaitons que ça soit une parenthèse qui s'arrête le plus vite possible, mais le prix du kérosène augmentant, ça se traduit dans le prix des billets d'avion.
Les PME, est-ce qu'il faut rouvrir les négociations commerciales ? Un certain nombre de PME dans l'agroalimentaire commencent à dire que les accords qui avaient été signés au 1er mars avec la grande distribution l'avaient été sur des bases de prix avec des matières premières, avec une énergie qui n'était évidemment pas celle d'aujourd'hui. Ils disent qu'on ne va pas forcément réussir à tenir. L'ANIA, qui représente notamment toutes ces marques d'agroalimentaire, dit qu'il va falloir sans doute que pour une partie d'entre nous, on puisse rouvrir ces négociations. La grande distribution, elle dit pas question. Vous, vous dites quoi ?
Enfin, là aussi, c'est un outil. Hein, on verra, c'est une possibilité. À date, là, pour l'instant, moi j'ai aussi eu des discussions de ce point de vue-là. Il n'y a pas dans mon bureau des gens qui viennent de me demander là tout de suite de réouvrir les négociations.
Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une urgence ?
Il n'y a pas d'urgence. On va faire un point, sans doute à la fin du deuxième trimestre, et on verra les conséquences qu'il faut en tirer. Ce que je peux dire quand même au niveau du pouvoir d'achat, de ce point de vue-là, c'est que les prix ne vont pas augmenter. Pour l'instant, et le médiateur des négociations qui va s'exprimer dit que il y a pas eu de hausse sur les prix de l'alimentation.
Dans les négociations qui ont donc été terminées au 1er mars.
À la fin des négociations.
On sait qu'aujourd'hui, les prix tels qu'ils ont été fixés, et donc pour l'année qui vient, il n'y a pas d'inflation.
Il n'y a pas, là, zéro inflation.
Zéro. On est sur l'épaisseur du 13. C'est-à-dire que les prix dans les rayons.
N'ont pas bougé. Et donc.
Vous pouvez l'affirmer ce matin.
Oui. Oui, je l'affirme ce matin parce que j'ai les éléments. Ils ont progressé précisément de 0,04.
Voilà. 0,04%. Donc,
exactement.
En effet, on est vraiment sur une stabilité des prix.
Stabilité des prix alimentaires.
Voilà. À ce stade. Évidemment, la question, c'est s'il y avait réouverture négociations, ça serait sans doute à la hausse.
Voilà, et les industriels sont aussi conscients que les volumes sont pas significatifs. Hein. Personne n'a envie d'augmenter les prix. Donc, bien sûr, après, on verra la nécessité de le faire ou pas le moment venu.
Serge Papin, vous êtes, je le disais, le ministre aussi des petites et moyennes entreprises. Il y a un grand défi qui est la question de la transmission des entreprises. Oui. Parce qu'il y a un certain nombre de patrons qui arrivent à plus de 55 ans, qui n'ont pas forcément encore tout à fait un plan pour la suite. Et vous lancez aujourd'hui un plan sur la transmission des entreprises. Ça va marcher comment ? Vous allez écrire aux patrons, vous allez anticiper, vous allez leur dire il faut que vous en préoccupiez dès maintenant ?
Il faut en faire une grande cause économique nationale. Parce que ça, c'est un vrai défi.
Qu'il y a un gros risque sur l'emploi ?
Il y a 550 000 entreprises qui vont changer de main dans les 10 ans. Donc, ça concerne 3 millions de salariés. Et ça veut dire qu'il faut anticiper. Et vous savez, on parle beaucoup de souveraineté, on parle beaucoup d'indépendance hein, en ce moment. On voit bien que il faut que, au niveau de l'Europe et au niveau de la France, on soit pérenne, on soit souverain. Et on le fera pas sans notre économie. Et ça, c'est vraiment la mère de toutes les batailles, hein, de s'occuper des transmissions. Donc oui, on va prévenir tous les chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans pour leur dire, oui, anticiper, parce qu'il y en a pour qui, c'est une angoisse, hein, la transmission. On va créer un site, on pourra appeler ça le Tinder de la reprise, pour mettre en lien ceux qui ont envie de reprendre avec ceux qui ont envie de céder. Les chambres de commerce, les chambres des métiers vont organiser aussi des journées de la reprise tous les mois pour avec les acteurs. Et puis on se préoccupe aussi du financement de tout ça.
Alors, j'avais ce matin un auditeur, il a une boutique, un commerce de chaussures à Montargis, et il vous interrogeait ce matin, il m'appelait sur RMC, et il disait, mais moi j'adorerais pouvoir me préoccuper de transmettre mon entreprise. Mais il dit, le problème c'est que pour l'instant, les entreprises vont surtout très mal. Le nombre de faillites d'entreprises, la difficulté des commerces, il dit aujourd'hui, d'ailleurs, le commerce se porte mal, les Français rechignent à consommer, ils sont inquiets, ils trouvaient presque que vous mettiez la charrue avant les bœufs.
Ça s'oppose pas. Hein. Alors, pour ce qui concerne les difficultés, on a mis en place, il y a quelques semaines, un plan d'accompagnement, ce qu'on pourrait appeler les défaillances. Et ça veut dire que les services de l'État, qui sont animés par la médiatrice du crédit ou par la direction du Trésor, coordonnent une action d'accompagnement quand il y a des difficultés. Juste une information quand même, 70% des entreprises qui font appel en anticipant parce qu'il y a des difficultés s'en sortent. Donc vous voyez, on est aussi
les défaillances d'entreprises et les moindres emplois. On sait que, et c'est France Travail qui a révélé ce chiffre hier, il y a eu moins 6,5% de création d'emplois cette année.
Oui, on est dans des difficultés sans doute, mais nous on essaie de faire un travail justement pour anticiper et sortir de ces difficultés. Moi je veux faire de la reprise là justement vraiment une cause économique nationale et donc on met en place des moyens pour faire en sorte que la création d'emplois continue et
vous leur dites de transmettre.
C'est toute une génération. Non, et c'est toute une génération qu'il va falloir relever.
55 ans, vous leur écrivez donc à 55 ans, ils vont recevoir une lettre, ces patrons de plus de 55 ans. Vous en avez parlé avec Bernard Arnault ?
Je pense que lui-même est dans la succession.
Je me posais la question, j'ai regardé, il a 77 ans, il venait de rajouter 3 ans pour pouvoir diriger son entreprise qui a 80 ans, et il propose, semble-t-il, là, de rajouter 5 ans pour pouvoir rester aux manettes d'LVMH jusqu'à l'âge de 85 ans. Oui, là, vous dites que vous allez écrire au patron de 55 ans, mais est-ce que vous en avez parlé avec lui de la transmission d'LVMH ?
Je pense que dans la famille Arnault, il y a ce qu'on pourrait appeler un tuilage. Vous savez, il y a la génération qui est déjà aux affaires, je pense que ses enfants sont aux affaires. Lui est toujours là, mais ils sont pas du tout dans le même registre. Et après, vous savez, moi, j'ai transmis mon entreprise. J'ai fait ce qu'on appelle un crédit vendeur à celui qui a repris le magasin. C'est un jeune, il était d'ailleurs rentré au passage comme saisonnier. Il a monté les échelons et je l'ai accompagné aussi. Je l'ai accompagné par ce crédit vendeur, mais je l'ai accompagné aussi en étant là, en étant avec lui. Et ce que fait Bernard Arnault, en tant que père, il accompagne aussi ses enfants.
C'est un modèle pour l'économie française.
C'est un bon modèle, cet accompagnement. Alors, il le fait, lui, dans une très grosse entreprise. Mais moi, ce que je retiens là-dedans, c'est l'accompagnement. Et je pense notamment, pour les reprises, quelque chose que je mets en avant, moi, c'est le crédit vendeur qui est à la fois un accompagnement du savoir-faire et un accompagnement financier. Et c'est des dispositifs comme ça que je veux mettre en avant.
Serge Papin, un mot sur l'immigration de travail. Pedro Sanchez, qui est donc le premier ministre espagnol, a annoncé vouloir régulariser 500 000 immigrés en situation irrégulière, mais qui travaillent sur le sol espagnol. Est-ce que vous vous dites, au fond, peut-être qu'il faudra le faire aussi en France ?
Il faudra réfléchir à l'immigration. Je vois bien que c'est un débat sociétal. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une immigration qui soit choisie. Ceux qui nous rejoignent, qu'ils adoptent le mode de vie qui est le nôtre. Et à ce moment-là, sans doute, oui, parce que on a une démographie qui est en berne. Il faudra bien qu'on trouve des travailleurs. Hein.
Et donc vous vous dites, potentiellement, et ça, de cette proportion-là, c'était 400 000 sujet, en Italie, c'était 500 000 maintenant en Espagne.
C'est un sujet qu'il faudrait aborder sereinement et pas dans le clivage et dans la caricature, comme parfois c'est celui du débat politique actuellement. Et je pense que on peut avoir, nous aussi, à notre façon, une immigration qui soit choisie.
Donc régularisée.
Qui soit intégrée.
Régularisée, plusieurs centaines de milliers d'immigrés irréguliers.
Je dis pas ça. Je dis qu'il faut qu'il y ait une intégration en fonction des besoins. Il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit débattu, il faut que ça soit compris. Il faut pas qu'on associe systématiquement les problèmes d'immigration et les problèmes de sécurité. Il faut dépasser ça et avoir un dialogue constructif. Ça fera sans doute l'objet d'autres échéances.
Et vous pensez, je pense, à 2027. Merci Serge Papin d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Ne bougez pas sur RMC. Dans un instant, on va rire avec Nicolas Canteloup. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, Face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Roland Lescure, le ministre de l'économie, était mon invité ce matin. Et toujours avec nous.
Bonjour à tous. Petite erreur, c'est Nagui. Ah oui. Bienvenue. Cécile est toujours avec nous, bien sûr. Bienvenue dans votre jeu. Tout le monde veut prendre sa place. C'est notre candidat du jour, c'est Roland Lescure. C'est vrai que c'est très compliqué en ce moment avec l'explosion du prix de l'essence, la dette abyssale, l'inflation qui menace. C'est pas le meilleur moment pour être ministre de l'économie. On va voir si quelqu'un veut prendre votre place. Roland, y a-t-il des candidats? Attention à la 1, à la 2, à la 3. Non, c'est gagné, Roland. Bravo, personne ne veut prendre votre place, tellement elle est pourrie, tellement c'est le bordel dans le pays. Vous repartez avec, cher Roland, une boîte de Kleenex et 2 ans d'antidépresseurs. Bravo, allez, ciao.
Nicolas Sarkozy, bonjour. Hier, c'est donc ouvert votre procès en appel dans le dossier du financement libyen de votre campagne.
Ah, donc c'est le financement libyen aujourd'hui. D'accord. Non, merci pour l'info, ma malheur. Non, c'est gentil. Non, parce que je vous avoue.
Vous avez perdu un petit peu, là.
Ben, avec toutes ces affaires, je ne sais jamais où que c'est qu'on m'accuse, alors que je suis innocent. Mais même, moi, je commence à m'y perdre dans toute cette innocence.
Ah oui. Bon, ben, c'est le dossier-là qui vous avait valu un séjour en prison après votre condamnation pour association de malfaiteurs.
Non, mais quelle indignité, Mme Pujadas. Primo, je n'ai jamais rien mal fêté.
Ah oui.
Et deuxièmement, association de malfaiteurs, association me concernant, ça tient pas une seconde, j'ai jamais fait dans l'associatif.
Ah oui.
mon truc à moi, c'est pas l'associatif, c'est les conférences à 100 000, les conseils d'administration à 200 000 et les bouquins à 300 000.
La cour d'appel rendra sa décision le 30 novembre.
Le 30 novembre? Ah oui, mais ça m'arrange pas du tout, ça.
Ah bon?
Ah ben ça va faire trop court pour écrire un nouveau livre en prison et qui sorte avant la Noël.
Donc, ah oui?
Ben oui, mon top 2 du journal de prisonniers, il va falloir que je l'écrive avant. Il n'y a pas le choix. Du coup, il faut que je trouve une prison pour juillet et août.
Ah ouais.
Pour que ça fasse un peu crédible.
Un petit mot peut-être sur votre fils, Louis, qui est arrivé 3e au premier tour des municipales à Menton.
Je suis tellement fier de mon petit Louis.
Ah. Mm.
Parce que c'est un courageux. Vous vous rendez compte, Monsieur Marshall, Louis, il s'est lancé à la conquête d'une ville de gauche.
Non, enfin, Menton, ça n'a jamais été une ville de gauche, Monsieur Sarkozy.
Ah ben, la preuve que non, puisqu'ils n'ont pas voté pour mon Louis. Pourtant, quand j'étais venu le soutenir, les électeurs de Menton, ils m'avaient promis de le faire, de soutenir mon Louis. J'aurais dû me douter à leur nom qu'ils n'étaient pas sincères, les habitants de Menton. Hein. Les menteurs et les menteuses, pardon. Hein. Mais je sais que vous êtes ravis de pouvoir reprendre mon Louis comme chroniqueur sur RMC. Hein, BFM. Ça vous avait manqué, c'est ces chroniques où qui dit qu'il faut supprimer le code de la route et les lois sur la drogue. Hein. Ah, il va y avoir moins de nuages de cannabis, ça c'est sûr, que Paris, M. Tanguy.
L'Europe a signé un accord commercial avec l'Australie, ce qui suscite la colère chez les agriculteurs qui voient dans ce traité une nouvelle menace pour leur activité. Arnaud Montebourg est avec nous, bonjour.
Salut mon Apolline.
Oh, salut.
Salut mon David. Évidemment qu'on s'inquiète. Et moi qui suis dans le miel, je peux pas rivaliser, je te le dis tout de suite, avec l'Australie. T'as déjà vu des reportages sur RMC Découvert sur les animaux d'Australie?
Oui, oui, oui.
Mais c'est des monstres.
Vraiment?
Ben, les abeilles australiennes, elles font 1 mètre de long. Elles sont vicieuses quand elles piquent. Elles visent directement la jugulaire et elles t'emballent. Elles sont très redoutées. C'est des ouvrières, mais t'en fais pas ce que tu veux, tu vois. Elles ont carrément monté un syndicat et elles sont aux 35 heures, les abeilles australiennes.
C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Hein.
Ah, mais les apiculteurs australiens, on va pas se mentir, ils vivent dans la peur, tu vois. Du coup, c'est eux qui bossent. Ils vivent dans les ruches, les apiculteurs. Ils butinent et c'est eux qui font le miel sous la surveillance des abeilles. Et là, je te parle juste des abeilles. Parce qu'il y a aussi les escargots.
Non.
Ah, sache qu'un seul escargot australien, tu peux nourrir une famille pendant 2 semaines.
Non.
Et rien qu'avec la coquille, tu peux loger 12 personnes et 2 chiens. Et là, on résout le problème de logement de David Lisnard.
Ah bah, c'est sûr. Hein,
on ne peut pas rivaliser notre Mercosur à côté de l'Australie. C'était que dalle.
Merci, monsieur Montebourg. Emmanuel Macron est aussi avec nous. Monsieur le Président, bonjour.
Oui, mais écoutez, bonne nouvelle, Apolline Malherbe. Ça y est, c'est ouvert.
C'est ouvert, c'est-à-dire vous avez réussi à négocier avec les Iraniens et ils rouvrent le détroit d'Ormuz.
Mais non, mais on s'en fout des détroits d'Ormuz. Non, mais je vous parle du village de la Reine des Neiges à Disneyland
Paris. Ah oui, c'est vrai que
j'ai passé toute ma journée de... Voilà, ça y est.
Oui, enfin, c'est quand même pas le même impact sur l'économie française que le détroit d'Ormuz.
Mais si, ça a quand même un impact sur notre économie. Allons, Apolline Malherbe, grâce à Disney, plus besoin de verser d'allocations chômage pour les déçus des municipales. Je les ai recasés à Disneyland Paris. François Hollande en Dumbo, Anne Hidalgo en petit rat de Ratatouille et Rachida Dati en Cruella, voilà. Et on n'a même pas besoin de les déguiser, on reconnaît les personnages.
Au fait, vous avez vu pour Edouard Philippe?
Ah ben oui, alors lui, c'est direct chez les Sandrine Dalmatien.
Non, mais je vous parlais du sondage,
Ah non, mais...
Pardon. Seul Edouard Philippe serait en mesure de battre le RN au second tour.
Ah mais c'est sûr qu'Edouard a pour lui un atout indéniable. Les Français veulent des nouvelles têtes. Et lui, il en change toutes les 3 semaines.
Le détenu qui s'est enfui lors d'une visite au Louvre la semaine dernière a été retrouvé 4 jours plus tard dans son pays d'origine, le Sénégal. Philippe de Villiers est avec nous, bonjour.
Attendez, vous êtes en train de me dire que le prisonnier a profité d'une visite au Louvre pour s'évader, rejoindre le Sénégal? Mais c'est parfait, ce malandrin volant s'est donc auto-expulsé. Une OQTF réalisée sans dépenser une goutte de kérosène. Mais je dis bravo, il faut faire la même chose avec les autres. Ouvrons les musées.
C'est-à-dire
ben, manifestement, c'est la solution. Envoyons de toute urgence nos OQTF visiter tous les musées d'art moderne de notre pays. Hein, tous les vernissages où des créateurs torturés peignent des portraits d'Olympe de Gouges avec le sang de leur menstruation. Hein, allons-y, faisons visiter à ces prisonniers toutes les expos sur le féminin sacré, tous les concerts de Pierre Garnier à la Philharmonie de Paris. Mais oui, mais c'est si les obscénités artistiques des bobos wokistes dégénérés parviennent à faire fuir les criminels, moi je dis bon. Encore. Hein, les OQTF, on les met devant une exposition de clowns tristes de Bernard Buffet. Et ils n'ont aucune envie, c'est de rejoindre leur pays à la nage. Donc je le dis, laissons la gestion des OQTF au ministère de la Culture.
Merci Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG avec Olivier Truchot. Bonjour Olivier, quel est le menu?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent. Charles Consigny, Laura Varton à Martinez, Joël Dagossiri. On va débattre de l'actualité. On va accueillir le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. C'est sa première dans les grandes gueules. Il sera face aux GG. On reviendra sur ces attaques au couteau dont sont victimes les profs. Il y a un procès en ce moment, le procès du meurtrier d'Agnès Lassalle. Un procès très suivi. Et puis on reviendra avec lui sur le niveau affligeant de nos enfants en orthographe et en grammaire. Il va être beaucoup plus exigeant, le ministre. En a-t-il véritablement les moyens? Allez, à tout de suite.